C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
J'ai profité de mon passage à Paris cet été pour kidnapper, je ne sais pas si on peut dire ça, oui, pour kidnapper deux des chroniqueurs, chroniqueuses de l'émission Homo Micro, qui est la mère des émissions et des podcasts francophones sur les réalités queer, puisqu'elle existe depuis plus de 20 ans. Alors, je reçois Nicolas Rividi, chroniqueur, salut.
Salut.
Et Valérie Beau. Valérie Beau, c'est la deuxième fois que tu participes à mon émission. On avait fait ça en duplex. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Je vous pose la question. On fait toujours ça avec nos nouveaux invités. On utilise quel pronom avec toi, Nicolas?
Ah ben moi, il, lui.
Et Valérie?
Elle.
Elle. Vous faites beaucoup de ce qu'on appelle de l'actualité queer. Vous parlez des sujets du jour lors de l'émission Homo Micro. Alors, j'ai pensé vous inviter tous les deux pour en discuter. Quel serait, je commence par toi Valérie, quel a été cette année le plus gros sujet qui touche nos communautés, d'après toi, ici en France?
Eh bien, je dirais spontanément, chaque année, il y a le rapport de SOS Homophobie.
Oui.
Et il y a une montée qui continue encore assez puissante de la transphobie et d'une parole libérée sur ce sujet. Donc c'est vrai que nos camarades, nos amis, les personnes trans sont soumises à rude épreuve et on doit être toute la communauté solidaire.
La montée de la haine, juste pour préciser, SOS Homophobie, c'est un organisme, une association qui suit donc...
Voilà, c'est une association qui a fêté ses 30 ans de mémoire. Ouais. Et donc, il y a une ligne d'appel, une ligne d'écoute. Il y a de l'aide aussi. Ouais. Et donc, tous les signalements, chaque année, sont répertoriés et publiés pour le 17 mai, la Journée internationale de lutte contre la LGBT-phobie.
Oui.
Et donc, ça permet une synthèse. Et il y a un regard aussi sur l'actualité mondiale aussi, et de faire des liens les uns avec les autres.
Donc un baromètre. Le pendant français d'Interligne au Québec qui fait aussi ce genre de constat, malheureusement, que la parole haineuse est en hausse, les violences sont en hausse. Nicolas, toi, tu voudrais dire qu'est-ce qui a retenu ton attention?
Bah, je pense que ce qui a retenu mon attention, c'est bon, alors évidemment, hein, la montée de la haine, ou en tout cas une expression libérée de la haine qui peut-être était un peu plus masquée ces dernières années. Et puis non, je pense à la marge des fiertés, en fait, je pense que c'est un élément important. C'est un événement aussi qui a permis dans le débat qui l'a accompagné, en fait, de clarifier aussi certaines position politique et idéologique de la part de notamment la région Île-de-France, qui a démontré en retirant sa subvention qu'elle n'était pas l'alliée des LGBT, qu'elle n'était pas l'amie des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, etc. Et que je pense que d'une certaine manière, alors avec des conséquences qui ont été un peu tristes, puisque le podium n'a pas pu avoir lieu sous la forme qu'on lui connaît.
Oui, parce que l'Île-de-France a retiré 25 000 euros de financement, 25 000. Plus certains groupes commanditaires qui se sont retirés.
Voilà, aussi. Exactement, oui. Qui se sont retirés aussi. Donc, mais ça a eu au moins le mérite de démontrer où étaient les alliés et où étaient les adversaires.
Tout à fait.
Et donc, je pense que ça a été un événement politiquement important de cette année LGBTQI+.
Comme cette entrevue est diffusée en septembre, mais je vais quand même parler de cette fameuse affiche et de la marche des fiertés qui a eu lieu en juin. Je sais qu'on est quelques mois après, mais il me semble que cette polémique au sujet de cette affiche a eu des effets désastreux, de perte des subventions, mais il y a quand même des bons effets. J'aimerais quand même qu'on explique un peu le pourquoi de ça, cette affiche. Qu'est-ce qui était polémique à propos de l'affiche?
En fait, il y avait deux choses. Il y avait la première partie de la polémique qui est qu'il y avait des petits symboles saupoudrés dessus. Il y avait une femme voilée, il y avait un badge de la Palestine, il y avait ce genre de choses qui n'ont pas mobilisé beaucoup de débats. Et puis, il y avait un homme, alors blanc ou gris, peu importe, ou gris clair, avec un tatouage de croix celtique dans le dos, qui était tenu par la cravate,
ouais,
par un des participants à la marche, en chaos technique. Voilà, donc un facho estourbi. Alors, il se trouve qu'en France, beaucoup de gens se sont identifiés au facho estourbi. Alors, c'est triste parce qu'il s'identifie au facho, c'est optimiste parce qu'il s'identifie au facho estourbi. Donc, ça laisse un espoir. Mais voilà d'où est partie cette polémique. Et puis, alors, ce qui a changé quand même cette fois-ci, c'est que D'habitude, les polémiques restent en interne du mouvement LGBT. Et là, pour la première fois à ma connaissance, l'extrême droite s'est saisie du sujet, en a fait un sujet, toute la presse d'extrême droite en ligne l'a relayé. Et donc ça, c'est un petit changement qui n'est pas de bon augure pour le coup.
Pourquoi ?
Ben parce que ça veut dire que je pense qu'ils se saisissent de ces questions-là et donc ils sont en quête électorale. Et donc en quête électorale, on parle au LGBTQI+, mais que le reste de la population soit bien au courant que quand les musulmans de banlieue auront un intérêt électoral pour ces partis-là, en les dressant contre d'autres personnes, ils le feront.
Ouais. Donc, ah, je vois ça. Valérie, tu voulais ajouter.
Oui, oui. Alors, c'est-à-dire que c'est déplacer le débat public. C'est nous qui subissons les violences. Mmh. Il y a aussi énormément d'hommes gays qui se font agresser. C'est aussi, ça continue, même des guet-apens. Donc, la violence, on la subit, les personnes LGBT la subissent au quotidien. Et par contre, si nous, sur une affiche, eh bien, on montre quelque chose qui peut être vu aussi, vous savez, dans les mangas. Il y a aussi des choses, il avait des étoiles dans les yeux, enfin des étoiles, ça pétillait. Donc, c'est interprété de façon à nous mettre vraiment, nous accuser, nous, de faire l'apologie de la violence. Alors, les bonnes consciences s'en sont offusquées. Moi, de toute façon, personnellement, je me suis dit que j'irais la marche des fiertés. Et cette affiche, eh bien, pour une fois, on montre de la violence, on ne dit pas. C'est pas dire l'apologie de la violence, mais dès que nous on ose montrer quelque chose et finalement qui est violent, oh là là, il faut qu'on soit, en fait l'image qu'on veut de nous, c'est les personnes marrantes, rigolotes, queer, allez, un drapeau arc-en-ciel, on s'amuse, on danse, on fait la fête, oui on danse, on fait la fête, mais on subit les violences et on est fiers d'entrer dans la rue. Donc la marche des fiertés est un acte politique, oui, de fait. Et il y a quelque chose, malgré cette montée de haine, il faut savoir qu'en France, dans énormément de petites villes, même des villes de 50 000 habitants, des villes où il n'y a jamais eu de marche de fierté, je peux parler de la Guéret dans la Creuse, la ville de Bourges qui est plus importante là en juillet, ça fait quelques années, il y a énormément de petites villes qui font des marches des fiertés. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que on ne se laisse pas faire et on se montre. Et on se montre de plus en plus dans énormément d'endroits. Donc il y a une force de résistance immense. Et à la fois, voilà, on est là pour être vigilant et voilà, par rapport à ce qu'on subit.
On a parlé de 200 000 personnes à la marche des fiertés ici à Paris. Il y en a eu 200 000 à Budapest où c'était interdit aussi. Une des choses qui a été dite, parce qu'on a souligné ce débat sur Gaza, sur le génocide à Gaza, et on disait, ben, ça ne nous regarde pas. Mais ça nous regarde après tout.
Non, mais tout nous regarde, en fait. À partir du moment où on est humaniste, à partir du moment où on lutte pour l'émancipation, pour la possibilité donnée à chacune et chacun de pouvoir exister comme il, elle est, je veux dire, on ne peut pas rester indifférent. C'est inhumain de voir des gamins se prendre des bombes sur la figure et puis dire « oui, non, mais bon, c'est bon, ça passera », et puis voilà. Après, je pense que ce qui peut être questionné, en revanche, c'est de savoir comment est-ce qu'on crée les convergences politiques ? Voilà, ça c'est un débat politique. C'est comment est-ce que finalement, face à cette conscience humaniste, on transforme cette conscience humaniste en quelque chose qui est une expression politique. Et à ce sujet, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait le travail complet d'avoir cette conscience politique exprimée. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres d'ailleurs, sur la proximité ou en tout cas les alliances qui pourraient exister entre les religions dans leur ensemble et les thématiques LGBT, je pense qu'on n'a pas encore fait le parcours qu'il faut faire pour pouvoir revendiquer quelque chose de cet ordre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore fait qu'on ne pourra pas le faire, et donc ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore fait qu'on est obligé de ne pas en parler. Donc moi, je pense que ces débats-là sont surtout dommageables finalement à une communauté qui a, dans le contexte et dans ce qui se prépare pour 2027, notamment en France, aurait beaucoup plus intérêt...
2027, c'est la prochaine présidentielle,
c'est oui, ça oui. Et donc, qui aurait beaucoup plus intérêt à se souder sur l'essentiel et l'humanisme plutôt que d'aller chercher des poux dans la tête des uns et des autres à chaque fois qu'ils disent un mot.
Valérie, j'aimerais te relancer sur cette question au sujet de ce débat. En fait, c'est pas un débat, c'est un génocide à Gaza. Tu as quand même écrit un roman qui se passe beaucoup au Moyen-Orient et où il y a aussi de l'homosexualité. Et on sait, parce qu'on nous, on se fait reprocher souvent quand on prend la parole pour dénoncer ce qui se passe dans ce génocide, on dit, mais vous ne savez pas ce que c'est d'être queer en Palestine. D'être queer quand dans des pays musulmans, ce n'est pas facile.
Non, alors donc, moi j'ai écrit mon second roman qui s'appelle Partir.
Oui.
Et donc, il est sorti donc, l'année dernière. Et c'est une femme qui est sous les bombes à Alep.
Oui.
Et qui se dit, je veux vivre. Et donc, c'est partir, partir pour vivre. Et ça questionne aussi l'identité, les frontières. Et donc, cette femme, eh bien, effectivement, elle est lesbienne. J'ai beaucoup enquêté hein, sur les personnes au Moyen-Orient qui sont lesbiennes. En fait, on crée nos réseaux souterrains. On arrive... Les personnes arrivent à vivre comme elles peuvent, mais à vivre quand même des histoires d'amour. Mais comme, on va dire, il y a 100 ans en France, 150 ans, où on était... Il y a un niveau, on va dire, indifférentiel, où on vivait, mais on vivait caché. Ou alors, j'ai une amie qui est militante égyptienne qui m'a expliqué, un homme, une femme vont se marier, elle est lesbienne, il est homosexuel... Bon, la famille sera contente et puis chacun va faire sa vie en restant discret. C'est pas dédouané. En fait, je veux revenir aussi sur un sujet qui nous a, avec Nicolas, on s'est intéressé à l'élection, enfin au conclave du pape. Oui. Et on s'est dit aussi, enfin moi, j'ai dit effectivement à la radio, je pourrais croire en une religion. Quand ils arrêteront cette haine contre les personnes qui veulent s'aimer ou être eux-mêmes, c'est quand même insensé. Dans la religion, moi j'ai été élevée dans la religion catholique chrétienne, aimez-vous les uns les autres, en fait, juste on a envie de s'aimer librement, on n'a pas forcément besoin de s'exhiber, on a envie de rencontrer quelqu'un, d'être heureux, et puis d'être face à sa propre identité, être soi-même. Donc cette harmonie intérieure, donc qu'on soit qu'à la même essence, on ne soit pas assigné au bon genre sur lequel on se ressente, qu'on soit véritablement qu'est-ce qu'ils en ont, qu'est-ce que ça peut faire, en quoi est-ce qu'on dérange. On dérange énormément, parce qu'on remet peut-être en question la norme, mais nous, on ne cherche pas à renverser la norme, on cherche juste à vivre. Donc voilà, c'est pour montrer par rapport aux religions, et je reviens au Moyen-Orient. Effectivement, on a l'habitude de vivre, même ici en France, toute personne LGBT, quand elle est dans un environnement, moi je fais de la visibilité au travail dans le cadre syndical, j'explique aux personnes que toute personne dans un LGBT, à un moment, elle dresse ses antennes, elle entend ce qui se dit à la machine à café, est-ce que c'est friendly, est-ce que je peux y aller, est-ce que je vais dire mon ami, est-ce que je vais dire ma femme, est-ce que je vais dire mon compagnon pour un homme. Et on est toujours en face, potentiellement, on a toujours un danger autour de nous. Donc, par rapport au génocide, par rapport à toute violence, en fait, c'est d'abord comme être humain. On réagit contre être humain parce que lorsqu'on voit que les personnes se font tirer dessus par rapport à de l'aide humanitaire et on imagine on voit des images et heureusement qu'on en voit. Enfin, moi, je me protège parce que c'est extrêmement violent. Mais c'est catastrophique. En tant qu'être humain, on ne peut pas savoir qu'il y a des gens qui sont aussi maltraités et rester silencieux.
J'aimerais terminer en vous demandant à tous les deux, bon, on a parlé de beaucoup de choses difficiles, est-ce qu'il y a de l'espoir quelque part?
Oui, parce que lorsqu'on voit cette flot de personnes à Paris et de partout dans les rues, et cette solidarité pour à Budapest être présent, et que je vois cet amour dans la rue, que je vois notre joie de vivre, il y a de l'espoir parce qu'on est là, parce que t'es là, parce qu'au mot micro, on sera toujours porte-drapeau. Et puis, finalement, j'espère que les uns et les autres, chacun dans sa famille, les personnes ont créé des familles, on vit j'espère la paix, on espère.
Le dernier mot à toi, Nicolas.
Ouais, il y a de l'espoir. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée juste après le mariage pour tous. Donc, à la rentrée de septembre à l'université, je vais aller vite, on sortait de la mobilisation du mariage pour tous. Moi et d'autres, on y a participé de façon très prégnante. Et puis, j'arrive sur le campus à Jussieu. Donc, je travaille Jussieu, c'est une université qui est en plein centre de Paris et je travaille là-bas. Mon laboratoire est là-bas. Et je passe sur une des pelouses qu'il y a où les étudiants et les étudiantes ont l'habitude de s'installer. Et je vois un truc que j'avais jamais vu avant. Je vois deux mecs s'embrasser, deux étudiants s'embrasser sur la pelouse. Il y avait un très beau soleil. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel, mais il y avait un très beau soleil. Et en fait, en voyant cette scène, je me suis dit, ben, ce combat qu'on a porté, il est déjà en train d'imprégner la société. Et il est non renversable. C'est-à-dire que le pied a été mis dans la porte et on ne peut plus refermer cette porte-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de l'espoir. Parce que face à tous les gens qui nous adressent de la haine à tous les niveaux, de la violence, etc., en fait, les réponses du peuple et les réponses de l'aspiration populaire, elles sont à vivre, à exister paisiblement, tranquillement, en s'aimant, et qu'on le voit de plus en plus. Voilà, là, même le simple fait de traverser une partie du 19e arrondissement tout à l'heure, j'ai vu un nombre incalculable de couples de garçons. Alors, il se trouve que, par tropisme, je suis plus sensible à la détection des couples de garçons que des couples de filles, possiblement. Mais, en tout cas, j'ai croisé beaucoup de couples de garçons à la terrasse des restaurants, se promenant dans le métro, etc. Ça c'est un boost d'espoir énorme, en fait.
Ça fait du bien. Valérie Beau. Et Nicolas Révidi, tous les deux, correspondantes et correspondants, pardon, chroniqueurs et chroniqueuses à l'émission Mon Micro. Merci beaucoup d'avoir participé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Merci.
Merci à toi.